13h, Ève Roger sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Europe 1. Je suis ravie de vous accueillir dans cette émission pour partager vos récits de vie accompagnés jusqu'à 16h par ma camarade Marlène. Bonjour Marlène.
Bonjour Ève.
Alors cette heure c'est la vôtre, on va parler pendant une heure des disputes en famille pendant les vacances. C'est l'été pourtant et après plusieurs mois de travail, on a donné rendez-vous au soleil, à la détente et même à l'amour. Et patatras, voilà que nous voilà dans une grande maison de vacances à ruminer contre nos parents qui nous engueulent comme des enfants parce qu'on ne respecte pas les horaires des repas. Notre belle-sœur qui critique l'éducation de nos enfants et notre frère de 45 ans qui fait des crises de jalousie comme à l'époque où il en avait 6. Mais le pire, ce sont nos ados au sommet de leur art, levés entre midi et 14h. Et quand ils ne dorment pas, c'est portable et réseaux sociaux toute la journée, mine renfrognée, qui dit tout bas, mais tellement fort, je vous déteste. Constat partagé, 7 Français sur 10 estiment que ce n'est pas simple de partir en vacances avec ces drôles d'animaux. Et ces voyages en voiture avec son conjoint au volant, quand le GPS perd son chemin, c'est par là, non, c'est par là. 80% des couples avouent se disputer sur la route, à cause de l'itinéraire, de la vitesse ou du choix de la musique. Et là, on se dit, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'on était bien au bureau, dans une atmosphère sereine et climatisée. Bref, est-on toujours obligé de se disputer quand on part en vacances en famille? Comment éviter les embrouilles? C'est le sujet de notre émission cet après-midi sur Europe 1. On va en parler ensemble pendant une heure. Nous attendons avec impatience vos témoignages. Racontez-nous les raisons de la colère. Nous sommes là pour vous écouter.
Et oui, pour joindre Ève Roger, appelez-nous au standard d'Europe 1. C'est le 3921, 50 centimes d'euros la minute. Benjamin est là pour vous accueillir. Vous laissez un petit message. Et si vous êtes sélectionné, bien sûr, vous passez à l'antenne en direct. Vous pouvez aussi nous laisser un petit message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou encore sur la page Facebook de l'émission.
Europe 1, 15h-16h, partagez vos expériences de vie avec Ève Roger.
Si vous aimez les réunions de famille...
Vous voulez boire quelque chose? Hein, vous buvez quelque chose?
Qu'est-ce que t'as? Tu es fatigué?
Est-ce que vous buvez quelque chose?
Si vous aimez votre belle-sœur...
C'est pour les enfants que c'est terrible. Heureusement qu'ils n'en ont pas.
Si vous aimez votre patron...
Ça va, Denis? Hein? Pas trop dur? Tu fais quoi, là? Tu te nettoies le genou ou...
Eh oui.
Ouais? Ben, il est propre maintenant, tu peux attaquer le reste, là.
L'un des films cultes de Clapiche, un air de famille, règlement de compte et vieille rancune de la famille Ménard pour nous mettre déjà dans l'ambiance, Ève Roger.
Eh oui, bonjour, Mikis, nous sommes maintenant. Et vous, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Quel âge avez-vous, Mikis?
Je suis ravi.
Et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 45 ans et je vous appelle de Corse où je suis en vacances.
Alors, Mikis, vous nous appelez pour nous raconter des vacances en famille qui ont tourné au chaos. Alors, dites-nous déjà dans quel cadre c'était, combien vous étiez, on veut tout savoir.
Alors, nous, on est issus d'une famille nombreuse, on est 5 frères et sœurs. Mm-hmm. Et on a fait pendant quelques années des vacances ensemble, au ski, en Corse aussi notamment. Mm-hmm. Et ça s'est à chaque fois très mal passé. Et donc, la dernière fois qu'on a décidé de retenter le coup, c'était en Espagne.
C'était il y a longtemps?
Ouais, c'est il y a 5-6 ans.
D'accord.
Par là, on avait loué une superbe maison en Espagne et on est tous partis en voiture et autres de différents coins de Provence pour se retrouver, de France et de Provence pour se retrouver en Espagne.
Donc l'idée, c'était de se retrouver pour passer de bons moments.
Exactement, voilà. Exactement.
Mais...
Tout en sachant qu'on a des moyens différents et donc là, ceux qui avaient un peu plus d'argent avaient mis un peu plus de sous, on avait tout recadré pour que ce soit vraiment des belles vacances, mais ça ne s'est pas du tout bien passé.
Alors racontez-nous un peu à partir de quelles disputes ont démarré, comment ça s'est déclenché?
Ça a démarré tout de suite en fait, hein. on était entre les frères, les sœurs, les belles-sœurs, les beaux-frères et les enfants, parce qu'on avait la chance à l'époque d'avoir des, on les a toujours d'ailleurs, oui. Mais d'avoir des enfants du même âge. Dès le premier repas, on est parti faire les courses et là, on s'est rendu compte que ça allait pas du tout le faire en fait.
Pourquoi ?
Entre ceux qui voulaient mutualiser les courses et qui avaient décidé de faire des repas, mais vraiment à l'économie, c'est-à-dire qu'on va au rayon congélation et on prend 500 pilons de poulet qu'on va manger toutes les vacances, et ceux qui voulaient manger des choses un peu plus frais, quoi, du marché, peut-être un peu plus cher. Mm-hmm. Et là, ça a commencé à péter tout de suite. Ouais.
D'accord. Et ensuite, à table aussi ? Les discussions
à table, de toute façon, on le reconnaît, hein, dans la famille, on a un point de discussion central, c'est notre enfance, et généralement, il y a notre mère au milieu de ça,
ouais.
qui est très bohème, hein, qui a vécu une très belle vie, et qui après est partie un peu en live, comme on dit chez nous, et donc avec des torts, et avec beaucoup de torts, et ça se regroupe là, et c'est à celui qui a été le plus maltraité, le moins vu, le moins bien habillé, ça part de là.
Vous faites des reproches à votre mère en public, publiquement, ensemble, c'est ça?
Non, on ne fait pas des reproches, on la fait pleurer. Ça, c'est notre grand jeu. Enfin, c'est pas un jeu, hein, d'ailleurs. C'est non, on ce que je dis. C'est oui. pas du tout bien. C'est pas du tout bien. On l'a fait pleurer, la pauvre. Donc, elle s'en va. Et après, on règle nos comptes entre nous.
Ah oui, d'accord.
Et là, et généralement, les belles-sœurs essayent de se mettre au milieu pour calmer les choses. Et elles prennent le reste. C'est-à-dire que c'est elles qui prennent autour d'un coup. Et après, c'est les enfants. Donc, ça part, voilà, comme tu as dit.
Les petits-enfants. Les petits-enfants. Ah oui, l'éducation.
Ah, oui. Là, je vous parle d'une période où vous avez 4-5 ans. Mm. Et c'est sur l'éducation. Mais le mien, il est plus fort. Il nage tout seul. Le mien, il n'a plus de couche. Tu dois coucher plus tôt. Laisse-le vivre.
Mais Mickey, à vous entendre, on a le sentiment que vous y prenez un certain plaisir.
Mais quelque part, je pense. Hein. Je pense que c'est exactement ça, en fait. On s'aime. Bon, là, après, les circonstances de la vie font des fois que les choses se passent plus ou moins bien entre frères et sœurs. Mais on s'aime. Mais c'est vrai qu'on éprouve un certain plaisir à, entre guillemets, se faire du mal.
Oui, c'est ça. Et vous êtes tous un peu sur le même modèle.
À tous. Tous. C'est qui en aura fait plus, qui est le plus intelligent, qui est le plus costaud, qui aura, excusez-moi du terme, mais la plus grande, c'est surtout les hommes, ça. Hein.
Les hommes, hein.
C'est un désastre. Et ouais, parce que les femmes, nous, on est un peu du sud, donc les femmes sont un peu plus effacées. Mais elles réfléchissent.
C'est horrible ce que vous racontez, Mickey.
Oui, mais elles réfléchissent surtout plus, en fait. Elles sont beaucoup plus intelligentes que nous.
Et dites-moi, ces disputes en famille, en même temps, vous y attendiez, c'est pas comme si c'était une surprise, et en même temps, ça s'est quand même un peu mal terminé.
Non, c'est pas ce qu'on s'y attend. C'est qu'à chaque fois, on se dit, il n'y aura pas d'engueulade. Ça va super bien se passer. Et là, pour le coup, c'était la dernière fois qu'on est parti en vacances ensemble parce qu'on ne le fait plus. On refuse maintenant.
Ça, c'est plutôt une forme d'intelligence, il me semble-t-il.
Ça s'est très, très mal terminé. Il y en a. Ma sœur aînée est partie 5 jours avant. Mon autre frère est parti avec ses pilons de poulet, est rentré à Paris avec ses pilons de poulet. Et on s'est retrouvés à la fin, on était deux. Pour régler ce qu'on devait régler sur la maison, faire le ménage, et ainsi de suite.
Comment l'ambiance était finalement quand certains sont partis ? Enfin, qu'est-ce que ça faisait comme émotion quand il y en a qui ont dit « bon, maintenant j'en ai assez, je pars ».
Ben, c'est difficile à dire, parce qu'on se déballe tellement d'horreurs qui datent de notre enfance. C'est pour ça que j'accumule ma mère à chaque fois, que même quand ça commence à partir, il y a quelque chose de cassé, il y a quelque chose de changé. Et c'est pour ça que là, on a vraiment décidé d'arrêter. Mais voilà, c'était assez rocambolesque. Ça arrivait à certains de partir pendant un ou deux jours et d'aller ailleurs. Moi, par exemple, les 3 derniers jours des vacances, j'ai mangé tous
des
les jours
avec de poulet. Mon fils.
Non, j'ai mangé tous les jours avec mon fils de 4 ans dans tous les snacks qu'il y avait au coin de la maison. Parce que je ne voulais plus manger avec les autres.
Ah oui. Alors, est-ce que finalement, aujourd'hui, donc vous avez dit on n'a plus jamais recommencé. D'abord, est-ce que ce n'était pas un peu long, 15 jours? Et est-ce que vous vous revoyez quand même individuellement les uns avec les autres?
Oui, on se revoit. On se revoit sans aucun problème, d'ailleurs. Hein, on se revoit assez souvent. Mais voilà, après, peut-être, en ce moment, moi, je vais prendre mon cas personnel. Ça va moins bien avec un de mes frères, mais bon, avec le temps, ça ira mieux. Si on peut se revoir, dès qu'on peut se revoir, on se revoit.
Ça veut dire n'est pas fâché les uns avec les autres. C'est le groupe qui est fâché ensemble.
Ouais, c'est le groupe. On sait qu'il ne faut pas être ensemble.
Ouais.
On sait parce qu'on a des vies, on a des parents en commun, enfin une mère en commun, parce que les pères, c'est plus dispersé, mais on a une maman en commun, et là, il y en a qui partent ensemble en vacances en Grèce. Moi,
d'accord.
Je suis en Grèce avec eux, je suis en Corse, mais après, on évolue, on grandit aussi.
Et puis, d'une certaine façon, vous essayez de préserver votre mère. En tout cas, merci beaucoup, Mickey, pour votre témoignage, cette expérience un peu folle. À très bientôt. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec 2 ados, un cousin et une cousine, actuellement en vacances en famille aussi, et qui ont beaucoup de choses à dire.
T'as le même âge que moi, pourquoi t'es quand même plus vieux? Si vous n'avez pas peur du vide, regardez Muriel dans les yeux. Pardon, mais j'ai passé l'après-midi à gonfler des ballons dans une ambiance d'installation militaire imposée par le daron.
Pas fan des rendez-vous de famille, Aurel San. Pourtant, la famille, source d'inspiration, j'ai envie de dire. Hein. Des fêtes de famille, un titre que vous retrouvez sur son album La fête est finie. Partageons nos expériences de vie jusqu'à 16h avec vous, Ève Roger. On parle des vacances en famille, mais comment éviter les embrouilles?
Et oui, nous sommes maintenant en ligne avec 2 cousins, Roxane et Gabriel, vacances avec leurs grands-parents et leurs parents. Et on va commencer d'abord avec Roxane. Bonjour, Roxane.
Bonjour.
Quel âge as-tu, Roxane?
Moi, j'ai 17 ans.
Et ton cousin Gabriel ?
Gabriel, il a 14 ans.
14 ans. Et d'où vous nous appelez ?
On appelle d'une maison de famille en Corrèze.
D'accord. Alors Roxane, est-ce que j'espère que vos parents sont pas là. En tout cas, ils vous écoutent pas en direct.
Non, ils sont loin.
Et vous êtes cachée alors. Alors Roxane, pour toi, le point noir des vacances en famille, si j'ai bien compris, c'est le portable. Alors ça énerve beaucoup tes parents de te voir sur ton portable.
Oui, exactement. On est souvent dessus. Alors, beaucoup trop souvent pour eux, apparemment.
Et qu'est-ce que vous faites dessus et pourquoi tu crois que ça les énerve?
Ce qu'on fait dessus, on est sur les réseaux sociaux ou sinon on regarde des vidéos sur YouTube ou des séries encore.
Ouais. Et pourquoi ça les énerve tant, tu penses?
Ça les énerve parce que souvent on les regarde de notre côté, on n'est pas ensemble en train de faire des activités en commun et on est scotché devant nos téléphones et ça les énerve. Et je ne pourrais pas expliquer correctement.
Et toi, Roxane, qu'est-ce que ça te fait quand ils te disent arrête avec le portable?
Mais c'est toujours énervant parce qu'on n'a pas l'impression d'y être tout le temps et pourtant c'est l'impression qu'ils nous donnent.
Mm-hmm. Et toi,
on le sait quand on est en pause, de mon pause.
Et toi, tu dis, ils nous le confisquent des fois.
Oui, ils le confisquent assez régulièrement, mais ils nous le rendent facilement.
Alors, ils nous le confisquent, mais vous avez quand même, comme vous êtes plusieurs cousins, vous arrivez à en trouver toujours un d'un autre cousin, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Alors que les parents croient que le portable est confisqué.
C'est ça.
Donc, vous entraidez les uns les autres. Et qu'est-ce que vous regardez? Ça, tu nous l'as dit. Et toi, qu'est-ce qui te donnera envie de lâcher ton portable?
Qu'on nous propose des choses. On ne nous propose pas assez d'activités, peut-être. Enfin, ça dépend quand on part et avec qui. Parce que certaines fois, on nous propose plein de choses. Et d'autres fois, on nous laisse comme ça, libre de nos occupations. Mais ils continuent à nous réprimander de les utiliser.
Ah oui, c'est ça. Mais tu penses que si on te proposait des activités qui te plaisaient, tu laisserais le portable? C'est juste parce que tu t'ennuies un peu?
Oui, on s'ennuie. La plupart du temps.
Et pourquoi tes parents ne te proposent pas d'activités, selon toi, ou pas assez?
C'est les vacances aussi. Ils n'ont pas forcément non plus l'imagination, comme nous, de trouver des activités à nous proposer.
Donc en fait, si je comprends bien le message, à tous les parents qui nous écoutent, si vous voulez que vos enfants lâchent le portable, proposez-leur des activités.
Alors, exactement.
Est-ce qu'il y a un autre sujet de dispute? C'est les tâches ménagères, je crois, Roxane.
Oui.
Alors qu'est-ce qui se passe avec les tâches ménagères?
C'est une grande maison où on est à plusieurs, il y a de la saleté facilement, même après les repas, il faut nettoyer la table, ou sinon mettre le couvert, de ranger le couvert, servir, tout ça, il faut partager les tâches et souvent c'est un peu compliqué de répartir de façon équitable.
Et toi, parce que les parents, ils crient, ils rouspètent, voilà. parce que vous en faites pas assez?
Voilà, parce que la cousine, elle en a fait plus, le cousin, il en fait plus, alors que nous, on fait rien, on reste assis à rien faire, en train de regarder les autres faire.
Ah oui, d'accord, c'est toujours le même. Est-ce que tu pourrais me passer Gabriel cette fois-ci? On va voir un ado de 14 ans, ce qu'il a dans la tête. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Alors toi, est-ce que tu peux me dire ce qui t'énerve le plus quand tu es en vacances en famille? Comme ça, vous êtes
en
nombreux.
En vacances en famille? Il y a certaines personnes, par exemple dans la maison, qui ont plus de droits que d'autres.
C'est-à-dire?
Par exemple, les grands-parents, ils ont le droit de décider de tout parce que c'est leur maison.
D'accord. Et tu trouves pas ça normal?
Ça dépend, mais ça dépend des fois. Alors, par exemple, quand on regarde la télé, si on la regarde tout seul, dès qu'ils arrivent, c'est eux qui choisissent la chaîne. Et c'est insupportable, ça.
Mais c'est le privilège de l'âge, non, Gabriel? C'est le privilège de l'âge, un peu. Ils sont plus vieux. C'est par politesse qu'on leur laisse la télévision, non?
Alors, du coup, on n'a rien le droit de dire.
Et tu disais aussi, il y avait une histoire de bateau, là, avec tes oncles.
Ah oui, on a retrouvé un vieux bateau.
Ouais.
On l'avait mis sur donc le porte-bateau. Et quand on l'a amené au lac, on s'est aperçu que le sol, il était dégonflé.
Ouais.
Du coup, ça avait frotté contre la roue et ça avait fait un trou.
D'accord, un trou dans
donc,
le bateau.
Du coup, mon oncle, il était pas content pendant 2 jours.
Ouais, il était énervé,
du coup,
quoi.
Ça mettait une mauvaise ambiance dans la voiture quand on est rentré.
D'accord. Donc en fait, vous subissez un peu les humeurs des uns et des autres parce que vous êtes plus petit et plus jeune, c'est ça?
Ouais, mais encore là. Là, c'est en train de se resserrer. Quand on était encore plus petit, c'était pire que ça.
Ah, c'est mieux quand on est ado, alors?
Un peu, mais...
Ah, parce qu'on grandit.
En fait, c'est pas hyper bien parce qu'on est entre petit et grand. Du coup, on a un peu des droits, mais on est quand même réprimandé.
Bon, alors, ça veut dire que, Gabriel, finalement, bientôt, tu seras grand-père. Et comme ça, tu pourras choisir le programme de la télévision. C'est ça qu'on peut te souhaiter.
Voilà.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que c'est quand même sympa comme vacances ou finalement pas trop ces vacances à 15 ou 16 tout en famille selon vous ?
Ouais, c'est bien.
Ah, quand même.
Enfin, sauf quoi, sauf de 14 à 16 heures quand tout le monde dort et qu'on fait rien, mais sinon c'est bien. Ouais.
D'accord, c'est l'heure de la sieste. En tout cas, ben, allez dormir les enfants. Merci beaucoup Roxane et Gabriel de nous avoir fait partager votre expérience. Dans quelques instants, nous serons en direct et en studio avec Isabelle Filiosa, psychothérapeute, auteure du livre « Je t'en veux, je t'aime » aux éditions Lattès, et elle nous expliquera tout ce qui se passe dans la tête de nos enfants.
Et Christine de Dordogne nous a laissé un petit message au 3921. Elle nous écrit, elle nous dit « J'ai reçu mon fils et sa femme ainsi que leurs deux enfants. Mon petit-fils ne faisait pas une phrase sans répéter 5 à 6 fois en fait. J'ai dit à mon petit-fils d'arrêter d'employer cette expression, c'était pénible. Il faut noter qu'il est admis à Sciences Po et à la Sorbonne. Tout au long du séjour, je l'ai repris, il en avait assez. Il n'était pas énervé mais assez excédé. Cela a failli avoir un impact sur les vacances en famille. »
Europe 1.
Vous aussi, n'hésitez pas à témoigner. Faites comme Christine, vous nous envoyez un petit message au 3921 ou encore sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Mais arrête de bouffer.
C'est bouleversant. Papa, il a dû être ballotté, papa. Il a dû être déchiré.
Non, mais vous n'avez jamais compris qui c'est, ce mec. C'est un menteur. Il a toujours menti à tout le monde, à nous, à maman. C'est un égocentrique. Ça a raté. Aigri, en plus. Il a raison, il a tout raté, tous ses rêves. Salzbourg, Bayreuth. Karajan, tu parles. Il a jamais été foutu de jouer Yiddish chez maman sans faire une fausse note. Il s'est vengé sur maman comme il pouvait. Avec le seul instrument dont il était vaguement capable de se servir.
Remise en question et révélation autour d'un repas de Noël. C'était un extrait du film La Bûche, la scène dans la cuisine entre Sabine Azéma et Emmanuel Béart. Une situation que vous avez peut-être déjà connue. Ambiance. Nous sommes avec Ève Roger jusqu'à 16h sur Europe 1 et on parle aujourd'hui des disputes en famille pendant les vacances. Disputes de couple, disputes avec nos ados, disputes avec nos parents ou nos frères et sœurs. Et on attend vos appels au 3921.
Et je me tourne vers vous, Isabelle Filiosa. Vous êtes psychothérapeute, spécialiste des relations familiales et auteure du livre « Je t'en veux, je t'aime » aux éditions Lattès. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir en direct et en studio cet après-midi. Bienvenue.
Bonjour.
Alors, dites-nous, pourquoi les vacances en famille entre grands-parents, parents, enfants, conjoints sont-elles si compliquées ? On l'a entendu. Alors, ce sont nos proches et qu'on les aime. C'est un vrai paradoxe.
Ben, c'est peut-être justement parce qu'on s'aime que du coup les rancœurs explosent parce qu'on aimerait que ça se passe bien. En fait, pendant les vacances, on est comme dans un huis clos. On est ensemble, les uns avec les autres, et presque piégés ensemble. On est enfermés dans une maison de vacances, aussi divine soit-elle. C'est quand même une maison. On n'a pas les activités de la journée. On n'a pas le collège, l'école, le travail, etc.
Qui permet de se séparer.
Donc là, on est ensemble. Et du coup, eh bien, ça a été bien, très très bien exprimé dans tous les témoignages. Les rancœurs anciennes ont tendance à revenir. On se dispute parce qu'en fait, on a beaucoup de choses à se dire. On s'aime, mais du coup, on se frotte les uns aux autres. Et nous n'avons pas appris le conflit. Le contraire de la violence, c'est pas la non-violence. Enfin, si, c'est bien la non-violence, mais c'est pas la paix. On voudrait la paix. On se dit « Ah, ça va bien se passer ». Non, ça ne peut pas bien se passer quand il y a des blessures. On a besoin de traverser le conflit. L'ennui, c'est qu'on ne sait pas faire. Mmh. Et aller en vacances, partir en vacances comme ça, sans prévoir des activités qui vont nous permettre de rentrer en conflit constructivement et de pouvoir guérir les blessures anciennes, eh bien, évidemment, on va se chipouiller sur des petits détails, sur des pilons de poulet ou la vaisselle et un truc qui n'est pas fait, etc. Toutes ces choses sur les broutilles, en fait, ça ne sert à rien. S'écharper sur le superficiel, ça ne sert à rien. On s'épuise, on se fait mal, on se blesse encore plus. Et après, ça augmente encore les blessures. Alors que ça a été très bien dit par Mikis, en fait, les blessures, elles sont, on rejoue des choses ancienne. Alors pourquoi pas aller directement dans les vraies blessures ?
Puisqu'on ne sait pas le faire, puisqu'on n'a pas appris à le faire, ça veut dire que comment on peut dépasser des rancunes qui datent d'il y a 30 ou 40 ans, quand maintenant on a le sentiment un peu c'est trop tard, c'est derrière nous.
C'est jamais trop tard, c'est vraiment jamais trop tard. Alors l'idéal pour Mikis avec une grande famille comme ça, ce serait de prendre un thérapeute qui serait là pour aider, pour réguler. Mais quand on n'a pas un thérapeute sous la main, on peut structurer au moins la parole. C'est-à-dire que chaque personne a besoin d'être entendue. Nous avons tous un besoin essentiel qui est d'être reconnu. Chacun veut être aimé. Et si chacun veut être le plus fort, le meilleur, moi regardez, eh bien c'est parce qu'on est dans cette quête absolue de « j'ai besoin d'exister ». Et donc, nous, chaque personne a besoin de pouvoir s'exprimer et de dire et d'être écouté. Le souci, c'est que quand on commence à en écouter un, ce qu'il dit nous fait mal. Et du coup, on a envie de se défendre.
Oui.
Voilà. Mmh. Et non, ça, c'est pas que c'est comme ça, mais tu exagères. Mmh. Et moi, j'ai fait pire. Et moi, ça a été beaucoup plus difficile, etc.
Mais c'est impossible de faire tout seul, ça.
C'est difficile.
Ce que vous dites là. Est-ce qu'il y a des familles où ça se passe mieux que dans d'autres?
Bien sûr, il y a toutes sortes de familles et il y a toutes sortes d'époques dans les familles. Mmh. Il y a des moments où on se sent prêt pour affronter les choses. C'est plus difficile quand on est en grand groupe. Peut-être déjà on peut résoudre les choses plus spécifiquement, mais peut-être il y a de plus en plus de jeux aujourd'hui. Avec un jeu, on a des règles. Donc les jeux qui aident à partager, qui aident à dire des choses... ça peut commencer par ce que j'aime le plus dans la vie ou un personnage que j'admire, etc. On n'est pas obligé de focaliser, de faire de la thérapie directement. Oui. C'est juste apprendre à s'écouter les uns les autres et à avoir donc une structure. Donc, il faut des règles du jeu. Si on prend un jeu de société un petit peu intelligent qui nous mène dans nos émotions, il y en a de plus en plus sur le marché.
Oui, qui ne sont pas faits pour ça, mais qui peuvent aider à ça.
Eh bien voilà, ça peut permettre de se rencontrer les uns les autres, de se découvrir, et du coup on va dire « Ah oui, t'as vécu ça, toi, avec papa, parle-en » et là, la règle c'est qu'on écoute,
et voilà, c'est ça.
Voilà, jusqu'à ce que le dé soit de nouveau, ou je sais pas...
Oui, pour parler spécifiquement des ados, puisqu'on les a entendus, qu'est-ce qui se passe vraiment dans leur tête? Est-ce qu'au fond, ça leur fait plaisir, eux, d'être en vacances en famille avec leurs parents, leurs grands-parents? Ou est-ce qu'au fond, ils aimeraient mieux autre chose?
Oui et non. C'est-à-dire que les ados aiment leurs parents. Et donc, bien sûr qu'ils aiment la famille, ils aiment être en famille. Mais là, il le disait bien, un adolescent, il a besoin d'autre chose que de sa famille. Il est juste à un moment où il a besoin de relations avec ses pères.
Et ses dans pères, le cerveau, donc, ses autres, ses copains.
Voilà, oui, c'est ça. Pas le père, P-E-R, les copains. Et donc, il y a quelque chose, le système d'attachement dans son cerveau qui était vertical. Hein, l'attachement vertical, c'est l'enfant est attaché à son parent qui est donc au-dessus de lui. Eh bien, au moment de l'adolescence, ça s'horizontalise. C'est-à-dire que quand un petit enfant de 6-7 ans monte sur une estrade pour réciter un poème, si sa mère est dans la salle, ça va le calmer, il va se sentir moins stressé. Tandis qu'un adolescent, si sa mère est dans la salle, non, au contraire, ça va monter le stress. Voilà. Par contre, il a besoin de ses copains dans la salle. Et donc ça nous montre que biologiquement, le fait d'être en présence des parents trop longtemps, c'est très difficile à gérer pour les adolescents. Ils ont absolument besoin d'être avec des pères.
Alors, mais on va retenir ce conseil-là. On reviendra avec vous tout à l'heure, Isabelle Filioza, auteure du livre « Je t'en veux, je t'aime » aux éditions Lattès. Dans quelques instants, nous allons accueillir Christophe, qui a offert à sa femme et ses deux grands-fils une semaine de vacances à New York. Je devrais plutôt dire une semaine de dispute.
Julia nous a laissé un petit message sur Twitter, un brin sarcastique. Elle nous dit « Ah là là, se faire réveiller le premier jour de mes vacances à 7h du matin par les hurlements de disputes, des disputes de ma famille, agrémentées d'un petit smiley avec deux cœurs à la place des yeux. »
Europe 1.
Elle est ravie. Et si vous aussi, comme Julia, vous souhaitez réagir et partager votre expérience 3921, le standard d'Europe 1, et Twitter avec le hashtag Europe 1. Dites-nous d'ailleurs si les vacances en famille, c'est une source de disputes. Et puis surtout, si vous avez des solutions pour éviter les embrouilles, dites-nous.
Ève Roger sur Europe 1.
Si ça tente, je fais un concert classique avec un orchestre de jeunes au début des vacances.
Carrément, c'est où?
En Italie, à Venise.
De l'argent, moi, je trouve pas sous le sabot d'un cheval.
Je sais, mais j'aimerais trop y aller.
J'ai une bien meilleure idée. On va y aller tous ensemble à Venise.
T'es sérieux?
Avec notre caravane.
Ouais.
Bah, ça te fait pas plaisir? Tous les chemins mènent à Rome. Et Venise n'est pas bien loin de Rome. T'as honte de nous? On te convient pas comme parents?
Oui, j'ai honte. Et j'ai honte qu'on soit pas une famille normale.
Mais ça n'existe pas, les gens normaux.
Voyage aussi rocambolesque qu'initiatique, c'était un extrait du film Venise n'est pas en Italie avec Benoît Poelvoorde, qu'on a reconnu à l'instant. On parle des vacances en famille, justement. Sont-elles forcément source de disputes? Pourquoi tant d'embrouilles alors que c'est l'été? Partageons nos expériences de vie avec vous, Ève Roger, jusqu'à 16h sur Europe 1.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour Ève.
Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Alors quel âge avez-vous, Christophe, et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 53 ans, je vous appelle de Paris, là, actuellement.
Alors, Christophe, vous avez décidé d'offrir à votre famille une semaine de vacances à New York à Noël dernier, ce qui est très sympa. Ça n'a pas été une semaine de tout repos, mais avant que vous nous racontiez vos disputes, dites-nous, pourquoi vous avez fait ce cadeau? Est-ce que vous attendiez de ces vacances?
Disons que c'était un cadeau de famille. Voilà, on voulait tous passer un moment tous ensemble, donc ma femme et moi et les deux garçons.
Oui.
Donc, voilà.
Des garçons, des grands garçons, hein, 22 et 26 ans, c'est ça.
Des grands garçons,
oui. Alors, sur quel sujet les disputes ont commencé, dites-nous?
À vrai dire, c'est le choix des visites, la temporisation aussi de visites, hein, parce qu'on a un fils aîné donc qui était très actif sur le voyage, qui voulait absolument profiter d'un grand maximum de New York,
ouais,
et de faire de plus de visites, de musées, de monuments, de quartiers, de
d'accord,
shopping.
Un hyperactif de la visite.
Voilà.
Et donc, l'autre
qui énervait un petit peu tout le monde, entre autres le plus jeune, quoi.
Alors le plus jeune, c'était quel style de garçon?
Lui, c'est plutôt déjà se lever un petit peu plus tard, voilà.
Oui, enfermé,
quoi.
De
faire des visites plus tranquilles.
Voilà, donc ça, les disputes commençaient comme ça et ça tournait vinaigre rapidement, ou comment ça se manifestait, la dispute?
Disons qu'on tempérait, mais des fois, voilà, ça prenait énormément de temps sur le voyage, sur les trajets, sur les sites aussi.
Ouais. Tout était un peu source de disputes, le programme, les trajets. Mais alors, vous aussi, vous étiez mêlé aux disputes, si je suis bien informée. Je crois qu'il y avait une histoire de restaurant, vous n'étiez pas d'accord non plus.
Oui, aussi, tout à fait, parce que le choix d'une restauration, New York étant une ville assez onéreuse au niveau de la restauration, on s'orientait plus sur des restaurants asiatiques.
Ouais.
Et moi, à un moment donné, je voulais bien un peu manger local, quoi.
Ouais. Et donc
je cède, hein, comme d'habitude. Hein,
oui, enfin, il paraît qu'une fois, vous êtes allé au restaurant, vous êtes assis, vous avez dit, moi, je mange rien.
Tout à fait.
Alors,
mais
Christophe, avouez-le.
J'ai fini par manger quand même.
Avouez que vous aussi, vous étiez source de disputes.
Ça, par contre, je m'en souviens pas.
Ouais. Et vous pouviez bouder toute la journée aussi, on m'a dit.
Ah, tout à fait, oui, je suis un grand boudeur. Je préfère bouder que, on va dire, me mettre en colère.
Oui, quoi. Oui, que crier. Mais alors, qu'est-ce qui vous mettait en colère intérieurement, alors, vous?
C'est pas des grandes colères dans ces cas-là, parce que, voilà, c'est des colères du moment où on ne peut plus supporter l'un ou l'autre.
Ouais.
Des réflexions, un choix qui nous plaît pas.
Se faire imposer des choix par ses propres enfants, quoi.
Voilà, tout à fait.
Mais là,
pas aussi que les enfants. Hein. Je parle aussi
de votre épouse,
de mon épouse et puis des deux garçons, bien sûr, et de moi-même aussi. Hein.
Ouais.
Donc, on a toute notre part de.
Donc, vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord. Alors, moi, je me suis demandé pourquoi vous preniez pas sur vous. Vous offrez ce voyage, vous faites plaisir aux garçons. Pourquoi, au fond, vous leur laissez pas carte blanche?
Disons que c'était un peu comme ça, mais bon, ça finit toujours par l'un exaspère l'autre. Voilà, mais. Mais dans l'ensemble, c'est-à-dire que à la fin du voyage et bien après, dans la mémoire de ce voyage, on en rit, quoi. C'est-à-dire que tous ces moments de dispute ont fait que c'était des moments de joie après, donc par la suite.
Ah, vous prépariez la joie d'après, c'est pas mal comme tactique, ça.
Oui. Non, c'était pas voulu, bien sûr.
Et dites-moi pourquoi, juste avant que j'interroge Isabelle Filiosa pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi vous ne faisiez pas des groupes séparés en fonction des désirs de chacun?
C'était assez difficile, aucun de nous quatre connaissait New York, donc on ne voulait pas trop se perdre, se désorienter.
Se séparer
c'était
peut-être.
C'était assez difficile. Mmh.
Alors, je vais demander à Isabelle Filiosa, notre invitée qui est psychothérapeute. Dites-nous, pourquoi on se dispute comme ça? On est quatre à New York, on est une famille, on s'aime. Pourquoi on n'arrive pas à faire de compromis?
Chaque compromis nous empêche d'exister véritablement. C'est-à-dire qu'on a tous envie d'être vu par les autres, d'exister, et on a l'impression, si on fait un compromis, de... Et puis le compromis, c'est jamais une très bonne idée, parce que finalement, c'est une soumission.
Ouais.
Ce qu'on pourrait trouver, c'est un consensus, mais pour ça, il faut aller chercher beaucoup plus loin à l'intérieur de soi et se poser la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Le lien ou bien avoir raison ? Est-ce que c'est le combat, donc que j'obtienne de gagner là tout de suite dans l'enjeu qui est présent, ou bien est-ce que c'est le lien avec mes enfants, ou le lien avec les parents, le lien avec les autres? Évidemment, quand il y a encore des conflits dans le lien, c'est moins facile, et du coup on a plus tendance à rester sur autre chose.
Et quand Christophe nous dit en fait on en a bien rigolé après, alors ça veut dire que c'est une sorte de démarche inconsciente?
Non, 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 je pense pas qu'il y avait cette intention-là.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'on en rigole après, parce que finalement, c'est inhérent à toutes les relations. On se frotte les uns aux autres, mais on sait qu'au fond, on est liés. Et le fait de pouvoir avoir eu des aventures, finalement, bien, on est conscient qu'on avait des rythmes différents, qu'on avait des besoins différents. On n'a pas su les gérer sur le moment.
Ouais.
C'est vrai que c'est dommage, c'est frustrant, mais finalement, tout ça fait partie de l'aventure. L'aventure humaine, elle se construit dans les conflits. Et donc, ça a permis de faire émerger le fait que chacun avait des besoins, des envies différents. Et finalement, ils se sont aussi découverts les uns les autres. Et puis, bon, on se rencontre.
Christophe, une dernière question avant qu'on se sépare.
Oui.
Est-ce que s'il fallait recommencer, est-ce que vous le referiez ?
Ah, tout à fait.
Ah oui, d'accord.
Tout à fait.
En tout cas, merci. Merci infiniment, Christophe, de nous avoir fait partager votre expérience. Dans quelques instants, nous serons avec Camille. Vous allez l'entendre, les vacances avec son copain, c'est toujours embrouille et compagnie.
Et Marie, sur la page Facebook de l'émission, a répondu à la question « Peut-on partir en vacances en famille sans se disputer ?» Alors, elle s'exprime, elle nous dit « En partant en famille en Espagne, une totale incompréhension, j'ai beaucoup pleuré et j'avais envie de rentrer chez moi, récupérer mon chien en garde chez des particuliers et qu'on me fiche la paix. »
Europe 1.
Si vous aussi, comme Marie, vous souhaitez intervenir, nous laissez un petit message tout simplement. 39 21, laissez un petit message 50 centimes d'euros la minute. Twitter avec l'hashtag Europe 1 ou encore la page Facebook de l'émission. Partageons nos expériences de vie jusqu'à 16h.
On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles.
Un classique de Michel Jonas, les vacances au bord de mer sur Europe 1. Vous écoutez Eve Roger jusqu'à 16h, partageant nos expériences de vie. On parle des vacances en famille. Est-on toujours obligé de se disputer quand on part en vacances ? Comment éviter les embrouilles, Eve ?
Et maintenant, nous accueillons Camille. Bonjour Camille, bienvenue sur Europe 1.
Bonjour.
Alors Camille, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors j'ai 25 ans, je vous appelle de Paris, depuis mon travail.
Eh bien, on espère qu'il va vous laisser tranquille. Alors Camille, vous ne pouvez pas partir en vacances avec votre copain sans vous disputer, mais alors là surtout, alors est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ?
Oui, on va dire que c'est surtout des petites disputes sur des sujets futiles, pas de grosses embrouilles parce qu'on est quand même en vacances, mais des petits sujets un peu idiots comme qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on place la tente, quel sujet emprunter, est-ce qu'il faut faire une balade ou pas, enfin ce genre de trucs.
C'est sur l'organisation, alors l'emplacement de la tente, vous préférez le bord de l'eau, votre copain préfère sous les arbres, c'est
ça ? Moi je préfère sous un arbre, lui plutôt pas en dessous d'un arbre, enfin ça varie d'un camping à l'autre, je vous avoue.
Et pareil, vous dites la nourriture aussi, c'est pas du tout le même désir de votre côté ?
Non, ça dépend. On est souvent raccord, mais parfois, il y en a un qui va aller au restaurant, l'autre qui veut manger au camping, ou quelque chose de plutôt rapide. Mmh. Le pique-nique, pareil. Est-ce qu'on prend du jambon ? Est-ce qu'on prend de la dinde ? Enfin, vraiment des sujets un peu idiots, quand même.
C'est idiot, mais c'est récurrent. Vous parliez d'une randonnée en VTT qui m'a bien fait rire à notre assistant, Benjamin. Alors, racontez-la nous.
Oui, l'année dernière, il y a un an exactement, on était partis dans les Cévennes en mode un peu nature et sport. Et puis... je me suis fait arnaquer correctement puisqu'il m'a vendu cette balade en VTT comme quelque chose de plat, de très facile au cours d'un... pour longer une sorte de petit lac, etc. Et puis en fait, je me suis retrouvée en pleine montée sous 30 degrés, en plein soleil, à essayer de monter à côté du vélo parce que je n'arrivais pas à pédaler.
Okay.
Et puis j'ai fait un petit caprice en jetant mon vélo sur le côté ne voulant plus bouger.
D'accord.
Donc, je suis restée immobile pendant un quart d'heure en boudant... comme une petite fille.
Et qu'est-ce que vous éprouviez à ce moment-là ? Vous étiez en colère contre lui ? Vous aviez le sentiment, effectivement, d'avoir été trompée ?
J'étais plus énervée contre moi parce que j'étais un peu triste de ne pas pouvoir monter pendant 10 minutes sur un VTT. Mais non, je n'avais pas eu non plus la sensation d'être flouée sur le coup, mais j'étais plutôt en colère contre moi, je pense.
Ouais. Et vous ne parlez jamais des activités avant, justement, de l'emplacement de la tente ? Enfin, vous ne préparez jamais les vacances avant de partir ? Justement, pour éviter tous ces petits conflits-là ?
Non, pour le coup, c'est plutôt, il arrivera ce qu'il arrivera, c'est sur le coup.
D'accord. Ouais. Et est-ce que, je parlais aussi des disputes au volant dans mon préambule, alors là aussi, vous avez quelques anecdotes à nous raconter ?
Oui, alors il y a l'anecdote du copilote, puisque je n'ai pas le permis, donc généralement c'est lui qui se tape les 7 heures de voiture et 2 heures de bouchon sur Paris, et moi avec le GPS dans la main, et puis on se dispute souvent parce que je suis une très mauvaise copilote. Donc par exemple, je suis incapable de dire « prends le rond-point, troisième sortie », c'est « prends par là-bas », et puis je vous laisse imaginer en plein Paris ce que ça veut dire « et par là-bas ».
Ah, vous n'êtes pas en vacances à Paris, hein, donc ça vous vaut pour Paris aussi. D'accord.
Donc voilà ce genre de petites choses.
D'accord. Donc vous cochez toutes les cases des disputes en vacances, hein, la nourriture, les emplacements, les activités, le volant. Alors comment se manifestent ces disputes justement ? Est-ce que ce sont, vous disiez, c'est pas très violent, mais c'est quoi ? Vous vous injuriez, vous criez, vous boudez, vous pleurez ?
Non, souvent c'est des petites bouderies, des petites colères, et puis, puis après on finit par en rigoler. Généralement quand il y en a un qui se met en colère, l'autre rigole, fait un peu d'humour et. Et ça tempère tout de suite un peu la colère de l'autre, complètement.
Comment vous les expliquez, ces petites disputes ? Est-ce que, comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire aussi des concessions pour éviter, justement, toutes ces petites bouderies à répétition ?
Je pense qu'il y a des concessions, effectivement, à faire, mais il y a des moments où je pense que c'est un peu plus fort que l'un ou l'autre, quand on a des tempéraments un peu sanguins, et puis il y a des choses qui ne sont pas prévisibles. Pour le coup, l'une heure de montée pendant la balade en VTT, elle n'était pas trop prévisible. Je ne suis même pas sûre que lui, il le savait réellement. Donc, il y a des petites choses comme ça auxquelles on est confronté et qu'on n'imagine pas. Donc, compliqué après. Faire une concession dans ce genre de moment, je ne sais pas trop comment... Pourtant, on est plutôt dans la concession généralement, mais là, c'est vrai qu'en vacances, des fois, on est confronté à des choses où on n'anticipe pas quoi.
Et c'est aussi parce que peut-être parce que vous êtes ensemble tout le temps, ça doit jouer aussi dans la dispute d'être en permanence avec l'autre, alors que dans la vraie vie, j'allais dire, on est souvent séparés par le travail, par les activités.
Oui, c'est possible. Peut-être qu'au bout d'un moment, il y a un petit ras-le-bol général qui se crée, même si on aime passer du temps ensemble. Oui. C'est possible, oui.
Et est-ce que, par exemple, à Paris, vous vous disputez aussi sur des broutilles comme ça quand vous n'êtes pas en vacances ?
Non, moins.
Moins ?
Ah oui. Moins, mais on se voit moins souvent aussi, on habite ensemble.
Ah oui.
On passe moins de temps ensemble que quand on est en vacances. Pour
Et
donc, est-ce du coup, non, il y a moins de disputes, ça c'est sûr.
Et est-ce que ça vous gâche un peu ces vacances, ces bouderies, ou finalement pas ?
Non, pas du tout, ça reste deux bouderies dans la semaine, à côté de plein de belles choses, donc non.
Bon. Alors, de toute façon, vous allez rester avec nous, Camille, maintenant, on va vous retrouver dans quelques instants, on va essayer de voir, avec vous et Isabelle Filiosa, comment on essaie de désamorcer ces disputes pour justement ne pas gâcher les vacances.
Et Croquetta nous a laissé un message sur Twitter, « Partir en vacances avec sa famille égale multiples disputes pour rien, hashtag instant dépression ». Partageons nos expériences de vie avec vous, Ève Roger. Alors, on parle aujourd'hui des disputes en famille durant les vacances et Josie nous a laissé un petit message. Elle nous a écrit de Vendée. Elle nous dit « On vient d'avoir nos deux petits-enfants pendant les vacances. Ils ont 20 et 16 ans. Difficile d'avoir des activités ensemble. Manon, 20 ans, nous a annoncé que son copain allait venir pour quelques jours. C'était pas prévu. Petite touche désagréable, le portable.
Alors, voilà.
Ils ont une pêche d'enfer, mais on a du mal à suivre. On a essayé de leur expliquer aussi qu'ils font ce qu'ils veulent à la maison. Mais ici, on a un règlement pour que les vacances de tout le monde se passent bien. 39-21, dernier témoignage.
Eh bien, merci. Nous sommes toujours avec Camille, qui nous racontait comment ses vacances étaient émaillées de bouderie avec son copain sur un peu tous les sujets. Alors Camille, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, je suis là.
Alors, vous nous disiez, pour essayer que ça ne dégénère pas, vous avez une arme qui s'appelle l'humour. C'est ça ?
Oui, tout à fait.
Alors, comment vous faites ? Racontez-nous.
C'est souvent du second degré. Quand il y en a un qui s'énerve un peu, l'autre essaye un peu de tempérer la situation en usant un peu d'humour ou de second degré.
Alors, racontez-nous sur la randonnée en VTT. Là, je crois que vous avez manié pas mal l'humour, alors.
Oui, alors la randonnée, moi, j'étais complètement braquée. Pour le coup, c'était moi le souci. Et puis, je voulais plus bouger. Et j'ai commencé à dramatiser un peu la situation comme je sais bien le faire. Et mon copain m'a un peu m'a suivi un peu dans ce délire là qui était je veux qu'on appelle les pompiers, je veux plus bouger, je veux plus rien faire. Donc il est rentré un peu là-dedans, il a rendu la chose un peu absurde et puis moi ça m'a fait rire et puis je suis remontée j'ai roulé à côté.
Et il a dit tu veux qu'on appelle un hélicoptère, c'est bien ça pour vous faire rire.
Il y avait un truc, oui, c'était ça.
Donc ça voilà, vous a fait rire et ça a désamorcé un peu le conflit. Mais moi je me disais, c'est quand même difficile de blaguer quand on est en colère hein, ou énervé, on n'arrive pas toujours à faire de l'humour. Vous arrivez à prendre sur vous, alors vous savez que c'est la porte de sortie.
Oui, après il y a des sujets, je pense des gros sujets sur lesquels on peut pas faire d'humour.
Ouais.
Mais là pour des choses aussi futiles, c'est notre arme en tout cas, oui.
Bon, ça, en tout cas, elle a l'air de marcher, de fonctionner. Je me tourne vers vous, Isabelle Filiosa, vous êtes psychothérapeute, je le rappelle. Pourquoi les disputes en vacances, elles sont si fréquentes quand on est en couple ? Alors qu'au fond, on se dit, c'est le moment de se retrouver, quoi.
Ben oui, justement, c'est le moment de se retrouver. Donc, c'est un moment très intime. Et dans l'intimité, eh bien, l'amour, on va le ressentir encore plus. Ouh, ça peut être dangereux. C'est-à-dire que nous n'avons pas tous été aimés par nos parents de la même façon. Quand on a pu exprimer et recevoir de l'amour, quand on s'est senti vraiment reconnu, accueilli, qu'on a pu vivre l'émotion d'amour facilement avec nos parents, alors oui, ça va être facile avec un conjoint. Mais quand on n'a pas forcément vécu autant d'amour, quand ça a été émaillé de conflits, quand on a été beaucoup puni, rejeté, quand on avait des émotions et qu'on nous envoyait balader, bref, du coup, l'amour est un peu dangereux. C'est-à-dire que si on pénètre, si on laisse l'autre pénétrer vraiment dans notre cœur, si on se laisse être intime, l'intimité, c'est être nu dans le sens sans phare, sans jeu psychologique, sans déguisement, sans masque.
Oui.
Voilà. Donc je suis moi-même face à l'autre et c'est un peu dangereux. Quoi.
Pourquoi les vacances
risquent de me manipuler?
Et pourquoi les vacances exacerbent ce sentiment?
Et parce qu'on est ensemble toute la journée.
C'est la promiscuité.
Voilà. Tout à fait. Et puis, on est dans un endroit clos. Même si on est en plein milieu de nulle part sur un VTT, on est quand même tous les deux coincés sur cette route, l'un en face de l'autre. Et du coup, ça a été très, très bien dit par Camille aussi. Les difficultés que nous avons, au lieu de les affronter, nous, et de sentir et d'exprimer nos émotions, nous avons tendance à balancer nos émotions sur les autres.
À faire porter la responsabilité sur l'autre.
Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, comme quand on était jeune, probablement, quand c'était difficile, nos parents nous ont méconnus, nous ont pas vraiment écoutés, etc. Donc on n'a pas appris à réguler nos propres émotions, donc on se sent pas très bien avec soi-même, on se sent coupable, on se sent un peu honteux, pas de pas réussir et tout, on s'en veut. Bref, comme on n'aime pas tous ces sentiments à l'intérieur de soi, hop, on joue des jeux psychologiques. Donc des jeux de harcèlement, ou des jeux de victimes, des jeux où on se met à embêter l'autre, à le juger, ou alors à se juger soi-même, ou alors je suis une pauvre victime, etc. Là, ce qui était génial, c'est d'entendre l'humour.
Oui, comment, c'est ça.
Si le conjoint peut, à ce moment-là, enquiller là-dessus, et au lieu de rentrer et de prendre... En fait, les jeux psychologiques ne tiennent que si l'autre joue un persécuteur, une victime, et puis hop, on
si
continue.
Si ça s'encastre.
Voilà. Mais s'il y en a un qui refuse de jouer et qui dénonce le jeu en augmentant, en exagérant et donc en montrant finalement ce qui est en train de se passer, on rigole parce qu'en fait, on a envie de s'aimer. On a tous envie de s'aimer, mais on s'enferme dans des jeux comme ça, des jeux entre guillemets, des jeux
qui font souffrir, en réalité.
Tout à fait.
Mais alors, les vacances aussi
qui nous permettent d'éviter trop d'intimité.
Les vacances aussi, quand on est en couple, les vacances c'est fait aussi pour se reposer. Donc parfois aussi, on a besoin d'être seul. Donc comment on peut dire à l'autre, laisse-moi un petit peu de temps, j'ai besoin d'être seul sans le blesser.
Pour quelle raison est-ce que ce serait blessant?
Parce que ça veut dire qu'on a besoin de vivre sans lui.
Non, ça ne veut pas dire du tout ça.
Ouais.
Et c'est ça le problème, c'est que ça n'est blessant que si l'autre a une histoire de rejet. Mais sinon, je pense que c'est tout à fait compréhensible par tout le monde que quelqu'un puisse avoir envie d'avoir un moment, un temps de solitude et de tranquillité. On a tous besoin d'être avec nous-mêmes, en complicité avec nous-mêmes, en intimité avec nous-mêmes. Et finalement, c'est notre capacité à être intime avec nous-mêmes qui va nous permettre d'être aussi intime plus facilement avec les autres. Quand on ne sait pas vivre seul, être seul avec soi-même, on va avoir du mal à être avec les autres et on va jouer davantage de jeux psychologiques.
Et on parlait des vacances en famille, là on parlait des couples, mais c'est aussi l'occasion des vacances en famille pour les familles recomposées, justement. Et là, c'est aussi source beaucoup de conflits. Alors juste pour terminer l'émission, est-ce que vous nous donneriez quelques conseils? Comment on fait quand on est face à des enfants qui ne sont pas les nôtres
On se souvient d'une chose importante, c'est que tout le monde a besoin d'attachement. Tout le monde a besoin d'être reconnu, a besoin d'interaction. Et si l'enfant qui n'est pas le nôtre nous agresse, rappelons-nous, ce n'est pas nous qui l'agresse. Il a à l'intérieur de lui de la rage, une fureur, un manque, de la frustration, des émotions mêlées. Il les projette sur nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous déteste, etc. Mmh. C'est-à-dire qu'au contraire, si un gamin, par exemple, me dit « Oui, t'es pas ma mère, je te déteste !» Eh bien, ça veut dire « J'aimerais que tu te montres être comme ma mère. J'aimerais que tu sois une figure d'attachement à laquelle je peux m'attacher. » Parce qu'on ne montre sa colère qu'à quelqu'un en qui on a confiance.
Ouais. Donc c'est plutôt bon signe.
C'est plutôt bon signe. Malheureusement, eh bien, c'est pas très confortable. Et si on ne le sait pas, que l'agressivité de l'autre veut dire que probablement il est en train de s'attacher, il est dans le processus de désir d'attachement, eh bien, du coup, on s'engueule, on se critique.
Et la bonne réaction, ça serait quoi alors ? Quand on dit « t'es pas ma mère ?»
Rester un pilier et « je suis là, je t'aime ».
On peut le dire comme ça.
Oui, je t'aime, bien sûr. Eh ben, je t'aime, ou alors tout simplement, viens, on va jouer à un truc. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas répondre à « je suis ma mère » ou « je suis ta mère » ou « pas ta mère », on s'en fiche. C'est-à-dire qu'on balaye ça, on va directement au cœur et on lui dit « viens, on va jouer à ceci, on va faire un truc en fonction, on propose une activité qui corresponde, je vais te faire ta tarte aux pommes, quelque chose qui corresponde et qui soit... une marque d'amour.
Il faut être bien cortiqué. En tout cas, merci beaucoup pour le conseil. Merci beaucoup Camille de nous avoir fait partager votre expérience. Merci aussi à Mikis, Roxane, Gabriel et Christophe de nous avoir raconté ces épisodes de leur vie. À vous Isabelle Filioza pour votre éclairage. Alors grâce à vous, grâce à ces témoignages, nous avons compris que les vacances en famille n'étaient pas toujours de tout repos et que pour en profiter un maximum, il fallait respecter quelques règles. D'abord, ça c'est la mienne, ne pas dépasser 3 jours pour les grands rassemblements avec nos parents, frères et sœurs devenus grands et leurs enfants. 3 jours parce qu'on ne peut pas prendre sur soi plus longtemps sans craquer.
Mais là, c'est prouvé scientifiquement. On perd des occasions, là, on perd des occasions d'approfondir la relation et de toucher l'intimité.
Vous avez peut-être raison, je vais y réfléchir. Avec les ados ensuite, il faut les associer dès le départ aux vacances, destination, activité, programme. Plus ils s'en mêlent et moins ils râlent. Et puis en couple, ne pas attendre des vacances qu'elles réparent les tensions accumulées pendant l'année. Les vacances ne réparent pas, elles révèlent. Mieux vaut donc essayer de régler les conflits avant de partir. Il vaut mieux prévoir de vrais moments à deux, sans portable, des instants de reconnexion, mais aussi des instants pour soi, on l'a dit, chacun de son côté, pour se ressourcer.
Mais vous pouvez continuer à en discuter sur les réseaux sociaux, le groupe de l'émission sur la page Facebook, donc de l'émission, mais aussi sur la page Facebook d'Europe 1.
Europe 1. Demain, nous nous pencherons sur ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Un syndrome qui touche les personnalités brillantes, qui pensent que leur succès, leur réussite sont dus au hasard ou à la chance, mais pas à leur talent, car ils considèrent qu'ils n'en ont pas. Alors, si vous avez fait de brillantes études, mais que vous pensez que c'est vraiment un coup de chance, si vous avez le sentiment d'avoir une promotion alors que vous ne la méritez pas, ou décrocher un job, mais que vous n'êtes pas à la hauteur, vous êtes peut-être atteint de ce syndrome. Appelez-nous au 3921 pour témoigner. Nous attendons vos appels. Merci à Benjamin Lévesque pour la préparation sans dispute de cette émission. Merci au calme et serein Boris Paczynski pour sa réalisation. Et merci à vous, souriante Marlène, toujours d'humeur égale.
Je ne vous contredis pas. Merci à vous, Eve.
Je vous laisse maintenant pour 2 heures de musique en compagnie de Karima Charny, que je vois là en face de moi. Elle a troqué les couettes pour la casquette. Bonjour.
Exactement.
Karima.
Bonjour, Eve. Bonjour, Marlène. Bonjour à tous.
Alors, avec qui allez-vous chalouper cet après-midi jusqu'à 18h ?
Avec les auditeurs d'Europe 1, tout d'abord. On est là pour se détendre. C'est un moyen aussi de calmer les disputes. La musique, ça adoucit les mœurs.
Absolument.
On va le prouver pendant 2 heures en direct dans musique et également avec mes invités qui sont aujourd'hui Madame, Monsieur. Ils vont nous parler de leur nouvel album qui sortira le 20 septembre prochain. Il s'appelle Tandem et c'est un album où il y aura 22 invités. Donc on va avoir beaucoup de choses à dire à leur côté. Voilà, c'est le programme de musique et ça commence à 16h.
Chantez bien, dansez bien. Bonne émission, à demain.
Merci.